Alors nous sommes le 25 octobre 2012. Je vais vous demander à chacun de vous présenter.
Vas-y.
Alors, monsieur Fernand Pevaux, à Polizot, habitant le vannage de Polizot.
Vous êtes né où et quand?
Je suis né en Côte d'Or en 1936.
Où?
À Sœur.
Vous êtes né chez vous?
Oui, à cette époque-là, oui, bien sûr. Et puis, j'étais donc garagiste à l'époque.
Ce que faisaient vos parents, en fait.
Ton père était garagiste.
Mon père était garagiste, oui. Et donc, je travaillais avec lui. Et puis, comme il est décédé en 66, après, donc, j'ai été tout seul à continuer le métier, quoi. Jusqu'à la période où, finalement, j'ai rencontré ma femme en
67.
7, oui. Ce qui fait que 2 années après, on se mariait. Et puis, de fil en aiguille, ma foi, j'ai changé légèrement de métier, mais la mécanique, je la connais. Je la connaissais parfaitement, quoi, d'ailleurs.
Vous avez changé de métier, pourquoi?
C'était tout simple. C'est quand on s'est connus, les parents de ma femme, c'est-à-dire Marie-Thérèse, ont voulu que...
Mon père a toujours
il cherchait une personne pour faire la succession de l'entreprise. Voilà. Alors que moi j'étais donc tout seul, pas marié, rien, tout seul. Finalement, bon, de fil en aiguille, oui, j'ai accepté quoi à l'époque. Et puis bon, alors finalement, il a fallu s'adapter, changement de région, changement de tout quoi. Mais je me suis quand même adapté quoi.
C'est difficile de s'adapter.
Et après. Oh, disons quoi, on a quand même des habitudes quand on est né dans une région, on connaît sa région, on connaît tout le monde, on connaît plein de choses quoi.
Autant la nouvelle entreprise qu'à la fin.
J'habitais sur la Saône, si vous voulez quoi. Là, c'est sur la Seine, c'est un peu identique. D'ailleurs, à la limite, oui, il me fallait une rivière dans ma nouvelle habitation. Sans rivière, je ne sais pas si j'aurais abouti à Polizot. Non mais finalement ça pesait quand même dans la bascule parce que
je vais finir par en apprendre.
Non mais c'est tout de même la vérité, quand on est habitué à une région, il y avait la Saône, la rivière, tout ça. Bon, ben, il me fallait un pays avec une rivière, bon, c'est tout, ça se discutait pas, ça faisait partie d'un ensemble quoi. Et puis ma foi, bon, ben, voilà.
Eh bien, moi, je suis née à Polizot, je suis
née... Alors, présentez-vous.
Alors, je m'appelle Marie-Thérèse Giron, épouse Pevaux. Je suis née à Polizot en 1937, ici, dans cette maison. J'ai toujours habité ici, j'ai jamais changé de place. Et bon, à l'âge de 16 ans, après mes études, je suis venue aider mon père, qui faisait la mécanique agricole. Et... je l'ai aidé en tant que secrétaire, puis je me suis attachée à l'entreprise. Et mon père voulait avant tout un gendre qui reprenne l'entreprise. Ça s'est trouvé que mon mari, bon, a accepté de venir.
Est-ce que l'histoire un peu d'ici?
L'histoire d'ici, mon père est originaire de la Meuse. Après ses études, quand il a voulu se mettre à son compte, il s'intéressait beaucoup à la mécanique agricole parce que ses parents lui avaient acheté une ferme. Il devait faire le fermier. Il a travaillé 1 an dans la ferme et puis il a dit à son père, la ferme, tu la donnes à ma sœur, moi ça ne m'intéresse pas, je vais faire la mécanique. Alors du coup, les grands-parents sont venus, ils ont cherché un ancien moulin, une ancienne usine hydraulique pour avoir une force motrice pour qu'ils puissent se monter, faire quelque chose. Et ils sont arrivés à Polizot où c'était à vendre. Et voilà, il s'est monté ici en 1929.
Donc votre père et ses parents?
Mon père et les parents. Les parents l'ont fait démarrer et puis ils sont rentrés dans la Meuse. Et mon père, j'avais un grand-père qui était très organisé. Il a cherché s'il y avait des jeunes filles dans le coin pour mon père. Bon, mon père a fait connaissance avec une jeune fille de Polizot avec qui il s'est marié. Et voilà, voilà le début. Moi, je suis née, fille unique, parce qu'il y a eu la guerre après. Et mon père a commencé en faisant des petites remorques à vélo. Qu'est-ce qu'il a fait? Des moulins à farine. Parce qu'à
Oui,
cette époque-là,
des bandes de scie.
des bandes de scie, enfin, des choses comme ça, de la fabrication, de la petite fabrication. Et puis en 1946, après la guerre, il s'est aperçu que la vigne commençait à être plantée et il y avait toujours les chevaux et la charrue derrière le cheval. Bon, il y avait la mécanisation commençait, il y avait du matériel qui commençait à se montrer pour la vigne. Et il a eu l'idée de construire un petit tracteur trois roues avec un treuil. On mettait le tracteur en haut de la vigne et on tirait par le treuil, on tirait la charrue et c'est la charrue qui remontait en même temps la terre, qui labourait, etc. Et ce tracteur-là, il l'a fait breveter. Il a trouvé un constructeur dans la Meuse d'ailleurs, à Bar-le-Duc. Et il en a construit, il en a eu des vendus, disons une cinquantaine, un peu dans toute la France. Mais beaucoup par ici, surtout pour les vignes en coteaux. Et puis ensuite, il y a eu des problèmes entre le constructeur, le service commercial. Bon, ben, ça s'est arrêté. Et après, mon père a vendu, il a remplacé le petit mototreuil par des gros motoculteurs. On vendait les motoculteurs motostandard, c'était des motoculteurs qui faisaient quoi, 10-12
Oui,
chevaux, très gros motoculteurs,
oui.
avec treuil ou même directement, qui servaient pour la vigne. On en a vendu beaucoup aux viticulteurs à cette époque-là. Et puis ensuite, vers 1960, il y a eu les premiers tracteurs enjambeurs, il y a eu les tracteurs enjambeurs qui ont commencé. Et en 60,
59, 60, ça a commencé
59-60
l'enjambeur.
a commencé.
Ouais.
Hein. On a commencé, nous, on a commencé à faire les tracteurs Loiseau, vendre les tracteurs Loiseau vers 1960.
60. Les tracteurs Loiseau.
Tracteurs, alors tracteur
Enjambeur.
enjambeur qui était fabriqué en Côte d'Or. Hein. Tracteur deux rangs. Un tracteur de rang qui était fabriqué en Côte d'Or. C'était merveilleux parce qu'il y a eu beaucoup de personnes intéressées, beaucoup de viticulteurs. Les ventes se faisaient bien. Ça s'est très bien passé vers les années 64, 65, 66.
6, ouais,
Ça a
7.
été vraiment des années d'or pour nous.
Après, il était quoi? Il était plus concessionnaire, non?
On était concessionnaire. Concessionnaire. Il y avait un concessionnaire qui était déjà avant nous, c'était Monsieur Geoffroy de Lignol-le-Château, pour le Bar-sur-Aubois. Et nous, on faisait le Bar-sécanet. Mais je sais pas si à cette époque-là, il n'y avait pas aussi. Mais c'était avant nous,
En Fèvre, du
Monsieur
côté
Fèvre
de
de Troyes.
3,
Il
oui.
était à Troyes, oui. Enfin, Monsieur Fèvre n'a pas fait. Je crois pas
Parce que,
qu'il l'ait fait.
rappelez-moi, vous êtes né quand exactement?
36,
37.
37, oui.
37.
Mais quel jour? Vous
Moi?
m'avez pas dit quel jour vous êtes né?
Le 25 juillet. Pourquoi vous voulez me souhaiter mon anniversaire?
Non, c'est pour avoir votre date de naissance, en fait. Hein?
Oui.
Oui, alors suite à la vente de tous ces tracteurs-là, eh bien, on a fait du matériel pour aller donc avec les tracteurs après. Genre grue, porte-caisse, broyeur à
Distributeur
sarment,
d'engrais.
distributeur d'engrais, mais tout spécifique pour la vigne, quoi.
Les premiers porte-caisses ont été vendus à Monsieur Védien. Le premier
Ben.
tracteur enjambeur Loiseau a été vendu à Monsieur Védien.
Aussi, oui, à celle-là.
À Selles.
Monsieur Vézien,
Hmm?
c'était
De Sainte-Source.
le père?
Oui,
C'était
ben
le
bien
père,
sûr,
c'était le
ben
père à cette
oui.
époque. Oui,
Totalement, oui.
oui, oui.
Parce que ça date des années. Hein?
C'était Marcel Védien,
Oui.
c'est ça? Oui.
62, 63, dans ces années-là. Hein?
C'était oui, en 1960, je crois bien le premier. Il me semble, oui. Ça devait être en 60.
Oui, c'est pas d'hier. Hein. C'est pour ça que c'était bien le père.
Et en fait, donc là, c'était pareil, c'est de la concession. Vous fabriquiez des choses aussi.
Ah ben non, mais non. Tout ce qui était accessoire, on les faisait. Broyeur à sarment, comme je vous expliquais, les grues.
Les grues porte-caisse, les plateaux.
Oui, des plateaux. Un tas
distributeurs d'engrais.
Même des charrues, on faisait plein de choses. Des distributeurs d'engrais. Puis après, avec l'avenue du Trois-Rangs dans les années 72, environ, 71-72, on a fait après des lève-caisses automatiques.
Il y en a toujours.
C'était ça se baissait.
C'est plus nous qui
alors, on pouvait commander en manuel, enfin en manuel avec un bouton, mais ou automatique, c'est-à-dire que ça, c'est un genre d'élévateur qui se baissait dans le rang, à côté du tracteur. Ça permettait de rouler, de ramasser les caisses. On touchait à rien, il levait, il tournait la caisse face sur le côté du plateau.
Il y avait juste une personne sur le plateau.
Une personne sur le plateau pour enlever les caisses. L'appareil redescendait automatiquement et il reprenait une caisse. Et comme ça, sans arrêt.
Et ça existe toujours. Hein. Maintenant, il y en a d'autres qui y font.
Et l'arrivée du 3 rangs.
On les a fait 10 ans avant tout le monde. C'est comme les broyeurs à sarment avec ramassage hors sol. On les a fait 10 ans avant comment la maison Boisselet, par exemple, à Beaune, qui faisait vraiment du matériel. Mais nous, on a fait tout ça 10 ans avant les autres.
Et 3 rangs. On parlait du 3 rangs.
Tracteur enjambeur, 3 rangs. Hein, ce qui veut dire que ça roule à cheval sur deux rayons. Alors que le rang, le monorang, ça roule à cheval sur un rang. Voilà. Alors ça cultive deux rangs, deux vides de rang. Alors que le trois rangs, il cultive trois vides de rang. Et puis, il est à cheval sur deux rangs. Voilà la conception.
Et vous avez vu donc l'évolution, ce avec quoi les gens travaillaient.
L'évolution,
oui. Ah bah oui.
Et elle s'est faite d'un seul coup, tout le monde a voulu...
Ah bah attendez, hein, d'un seul coup, non. Pas du jour au lendemain. Hein. Puis alors, il y a eu les années creuses, il y a eu tout ça. Il y a des périodes où ça a moins bien marché. Il y a eu des vides. Dans les années 90, 91, 92. C'était tiens, un peu comme aujourd'hui. Hein. Bon, ça ne marchait plus. La vente des tracteurs s'est quasiment arrêtée pendant une paire d'années.
Ah oui, des trois ans.
Donc ça, c'était des années creuses.
Les années 92.
Alors oui. Hein.
Vers les années 62, 63, 64, le vignoble
ça démarrait, mais avec
vignoble,
des problèmes
grandi,
quand même.
Ça a bien
des problèmes financiers parce que
la motorisation a bien démarré.
Riches, hein. Les vignerons n'étaient pas riches à l'époque. Donc ça a démarré, mais bon, avec du temps, ça a mis 10 ans pour partir.
Mais vous, quand vous êtes arrivé, c'était spécifiquement vigne ou c'était vigne et agriculture?
Non.
Oh non, c'est pas un endroit agricole, franchement, là. Il y a quelques fermes. Autour de Polizot, vous comptez 7-8 fermes et puis, bon, c'est tout, dans les environs, quoi. C'est pas vraiment agricole. Donc, on était sur le viticole essentiellement. On est resté toujours sur le viticole.
Et alors, j'imagine qu'il fallait trouver des nouvelles choses, non? Mieux que la concurrence ou des
ben surtout quand ça n'existait pas.
Par exemple.
fallait tout inventer. Ben, vous prenez, je reviens par exemple au broyeur à sarment. Ramassage hors sol, c'est-à-dire il levait les sarments avant de les broyer. Il ne les broyait pas par terre. Est-ce que la technique des premiers broyeurs, c'était tout broyer par terre. D'ailleurs, il en existe encore pas mal aujourd'hui, mais bon, le travail n'est pas si bien fait que quand on broie hors sol. Hors sol, c'est bien mieux. Et ça permet de passer, même s'il y a de la neige, même si c'est humide, est-ce que celui qui broie par terre, ben, il colle tout dans sa machine et puis il s'arrête, il ne peut pas travailler. Quoi. Voilà les techniques. Alors j'ai fait ça 10 années avant tout le monde. Alors ça, c'était justement, bon, voilà, la recherche, la technique, mais c'était pas une question de copier sur les autres, ça n'existait pas. Mon lève-caisse automatique, c'était la même chose, ça n'existait pas, je l'ai donc fait tout seul, voilà.
Mais comment c'est venu? C'est en regardant ce qui se passait ou...
Ah ben non, mais vous pouvez pas les regarder puisqu'il n'y en avait pas.
Mais ce qui se passe sur le terrain.
Les inventions, mais c'est ça. Quand on invente, on fait des choses qui n'existent pas.
Mais comment ça
si
vous
ça existe, vous êtes un copieur, vous n'êtes pas un inventeur.
Comment vous vous dites, bah, tiens, voilà, je...
Ben parce qu'on voit que ça ne va pas, il y a quelque chose à faire. Donc on recherche, on fait, on avance et puis on essaie ça sur le terrain. On ne va pas sur un bureau pour faire un dessin de machine qui ne va pas marcher dans la nature. On fait l'inverse. On la fait marcher sur le terrain, puis après, voilà. Parce que oui, par exemple, bon, il y a des choses que je vous expliquerai bien. On a fait une débroussailleuse Roto 2000. Bon, on en a vendu dans toutes les communes autour. Ça date des années 80, 60, de 75 à 90, si vous voulez.
La débroussailleuse a commencé beaucoup avant, avec un carter.
Oui, mais enfin, non, mais la vraie qui fonctionnait, indépendante, qui marchait comme ça. C'est-à-dire que le pouce en l'air, hein. Voilà, une bonne machine. Alors, je l'avais construite, parce qu'on faisait les foires à Troyes, on faisait tout ça, on l'avait construite, cette machine-là, c'était pour nous. Bon, parce qu'en ayant des propriétés un petit peu à gauche, à droite, quand on allait donc faucher une ou deux fois dans l'année, ça faisait 1,50 m de haut, les broussailles, les ronces, tout ça. Donc on se l'est mis au point. On a mis quoi ? Une année pour bien l'améliorer, donc on a copié sur personne. Elle n'existait pas non plus, parce qu'à l'époque, c'était des barres de coupe à section. Et là, quand l'herbe est mouillée, vous ne pouvez pas passer, enfin, il y a beaucoup de problèmes. Alors, de fil en aiguille, elle marchait. Un jour, je fais la foire de Troyes, il y a un client qui me dit, « Oh, dites donc, je suis embêté, j'ai un étang, j'ai ci, j'ai ça, il y a des gens, il y a ci, il y a des... » Il dit, « Je trouve rien qui va, je peux pas, je suis embêté, tout. » Je le regarde, je lui dis, vous savez pas, je ne vais pas vous promettre quelque chose, mais si vous voulez voir une machine qui marche, vous venez me voir à Polizot, quand vous voulez. Ben, il me dit, tiens, je vous prends un rendez-vous là. La semaine d'après, le client vient, je vais chez ma belle-mère, il y avait de l'herbe à 1,80 m de haut, des broussailles, des petits arbustes, je rentre là-dedans, avec une machine qui avait qu'un moteur de 4 chevaux. Hein. Attention. Alors... J'entre dans les végétaux et j'avance et je me fais mon corridor, un couloir, un aller-retour, ça faisait 1 mètre de large découpé. Le client, il en est resté la bouche ouverte quand il a vu ça. Alors, évidemment, vous devez bien vous douter que je l'ai vendu systématiquement. Voilà. Alors, suite à ça, comme on faisait souvent des foires, on allait assez loin, on allait à Brienne, on allait à Lignoles, pas à Lignoles, à Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Lyrissé, en fait, pas mal de foires.
La foire de Champagne aussi qu'on a toujours fait.
Oui, la foire de Champagne, oui. On l'a fait très longtemps, pendant peut-être au moins 40 ans. Enfin voilà, finalement, de fil en aiguille, on en a fait une petite série, puis alors après, on était en vente au point chaussée et puis toutes les communes des pays environnants. Voilà, et elle a eu un succès fou parce que cette machine-là, elle durait dans une commune 20 ans. C'est-à-dire 20 ans, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça voulait dire dans les années 75 et 80.
Et il y en a toujours qui marchent.
Il y avait les boîtes de conserve, les bouteilles dans les fossés, il y avait tout ça dans les accotements. La machine, elle arrivait là-dedans, elle pulvérisait tout, elle passait. Voilà. Alors après, du moteur 4 chevaux, j'ai passé à un moteur 6 chevaux. Voilà. Toujours en Bernard moteur. Elles sont faciles à reconnaître, il n'y a que du Bernard moteur sur ces machines-là. Vous voyez que ce n'est pas d'hier. Mais voilà, ça c'était, ben oui, j'ai copié sur personne. Non, ben non, voilà.
Là, vous êtes en face d'un inventeur. Alors, mon père était un chercheur, un inventeur. Il n'aimait pas tellement le commercial. Vendre quelque chose, aller voir les clients, ça ne lui plaisait pas. Mais... concevoir quelque chose, fabriquer, concevoir. Il a fait beaucoup de brevets d'invention. Il y a beaucoup de brevets d'invention. Combien? Je ne sais pas exactement. Bon, il a commencé par des petits crochets d'attelage sur les remorques à vélo, par exemple. Il y a eu les moulins à farine. Bon, après, il y a pour les tracteurs...
trois roues, là.
Oui. Ben, il y a eu le mototreuil Giro, et puis les accessoires pour les tracteurs en jambeur après.
Hein. Alors, il y avait la giravatrice alors, aussi.
Une giravatrice, une machine pour les ponts des chaussées.
Creuser les fossés.
Oui, pour creuser les fossés. Et quand je me suis mariée, je me suis aperçue que finalement, mon mari, ben, c'est exactement la même chose que mon père.
À une différence près.
À une différence près, c'est que lui, il est plus commercial quand même. Mais enfin, c'est l'inventeur, c'est le constructeur, c'est le fabricant, c'est celui qui cherche, qui innove, et voilà, et qui en est fier.
Ben, c'est-à-dire que ce n'est pas des échecs, hein, parce que la dernière machine que j'ai donc conçue en 88, c'est un appareil de traitement qui s'appelle Pulvo 2000. Il enroule encore, et les gens qui les ont les remplacent rarement, parce que ce qui se fabrique aujourd'hui n'arrive pas encore à la cheville de ce matériel-là. Alors,
appareil de traitement interligne, hein, entre rangs, pour les viticulteurs, pour la vigne.
Et comment est née cette invention-là ?
Eh bien voilà.
Un des premiers appareils de traitement interligne.
Pour répondre à votre question précédente.
Un client qui demandait...
Alors, c'est venu comment? C'est que, bon, j'ai fait une machine, j'ai copié sur personne, parce qu'elle n'existait pas.
Mais c'est
quand j'ai eu fini ma machine, elle ressemblait à personne. Donc, c'est encore de l'invention.
C'est un client qui demandait un appareil interligne.
Oh, il voulait autre chose, parce que ça... Ouais. Alors, bon, c'était facile à faire le compte de tout ça. On connaissait les défauts de l'un, de l'autre, et de l'autre. Bon, on éliminait tous les défauts. Bon, après, on a fabriqué avec les avantages. Il ne fallait pas prendre trop de puissance, parce que vous avez des machines qui pèsent un poids fou, qui pèsent 700 kilos. Si vous voulez, il y a une théorie, il y a quelque chose d'absurde dans les pratiques. C'est que, alors, dans les vignes, il faut rouler avec un matériel léger pour ne pas raviner, parce que ça évite de tasser des rayons et de faire des rigoles dans les rangs de vignes. Donc, il faut rouler léger.
Il faut de la puissance.
Alors, avec un matériel de 600 kg qui prend 40 à 50 chevaux pour tourner, plus emmener donc les 1500 litres d'eau, plus entraîner le matériel, il faut des tracteurs de 180 chevaux. Bon, alors il faut l'emmener aussi le tracteur à vide, parce qu'il pèse déjà 4,5 tonnes. Hein? Alors quand vous avez tout ça sur le tracteur, vous faites 5-6 tonnes. 5 tonnes et demi, 6 tonnes. Bon, alors, il faut potentiel rayon. Voilà, ça, c'est formidable. Alors, c'est, bon, entre la théorie, puisqu'il se fabrique, c'est une catastrophe, dans la pratique. Bon, alors, moi, je faisais une machine pour faire la même surface que les autres, la même largeur de rang. Je prends 20 chevaux au lieu de 50. C'est quand même ça. Alors, après, on descend à un tracteur qui fait 54 chevaux, 80 si vous voulez, mais pas 180. Vous enlevez des tonnes. Là, vous commencez à rouler avec un tracteur qui fait 2,5 tonnes. Plus, évidemment, le matériel, mais mon matériel, il pesait que 250 à 300 kg. La nuance. C'est-à-dire une fois moins lourd que les autres. Bon. Alors ça, c'est aller dans le bon sens. Alors, ce qui se fait en réalité, et puis ils se copient tous les uns sur les autres, ils font quasiment les mêmes machines, il n'y en a pas une qui est au top. Parce que ce n'est pas des inventeurs, c'est tout.
Ça. Depuis 2005, c'est la retraite.
Alors, je sais pourquoi, hein? Elle a un succès, mais dans la pratique, parce que j'avais des clients, j'en vendais dans la Marne, un peu n'importe où, les clients me téléphonaient fin de saison, comme en ce moment, si vous voulez, ils me disaient, c'est maintenant qu'il faut venir voir mes vignes. Alors, je lui disais pourquoi. Je le savais pourquoi. Ah ben, venez voir, vous allez voir la différence avec les voisins. Alors, bon, ben, tiens, c'était la foire d'Épernay. Ben, je lui disais, bon, ben, je vais à la foire, je passerai par chez vous, et puis j'irai voir. On se donnait un rendez-vous, tout. Bon, j'emmenais mon appareil photo, tout, mais des photos comme ça, j'en avais déjà dans X pays. Je les connaissais avec les voisins. Alors, une photo, ma photo, c'est vert comme une pelouse. Impeccable, une plus en bonne santé. Hein. Et puis les voisins, ben, enfin, c'est de la feuille jaune, marron. C'est pas du tout la même couleur. J'ai des photos, je vous en montrerai, mais je peux vous en montrer des quantités. Alors, quand les feuilles sont jaunes chez les voisins, dans mes vignes à moi, elles sont toujours vertes. Il y a quand même quelque chose. Mais je sais pourquoi. Mais bon, ça reste là, hein. C'est pas gravé dans le marbre. Parce que, mais non, ils savent pas faire les machines. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient y faire? Bon. Ben, c'est quand même la vérité, quoi. De toute façon, je tourne avec une machine sur une vigne, c'est pas moi qui tourne, c'est un client. Bon, vous regardez celle d'à côté à la fin de saison. Eh ben, il n'y a pas. C'est à couper au couteau. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Ah, rien. Mais moi, je sais pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ça m'amuse un peu. Mais bon, ben, c'est tout. Ils dessinent ça sur des planches à dessin. Mais ils ne savent pas ce qui est bien, ils ne savent pas ce qui est mal. Voilà. Alors, un jour, tiens, je ne vous cite pas la marque, rien. Ma débroussailleuse. Qu'est-ce que je. Il y a une maison qui nous dit, parce que, bon, ils savaient qu'elle marchait bien, parce que je l'avais montré au représentant de la maison. Et puis, ma foi, bon, une grosse maison. Hein. Alors, ils nous demandent s'ils pouvaient nous emprunter une machine pour en faire une. Enfin, bon, patati patata. Bon, alors, suite à ça, on leur prête la machine. Bon. Alors, pour vous dire, à la fin, ils ont été sympathiques parce qu'ils nous ont quand même fait une petite indemnité. Bon, une petite indemnité. Alors, mais cette fameuse machine, elle a tellement bien marché quand ils l'ont repensée, revue et corrigée à leur façon, qu'elle fonctionnait très mal. Résultat de l'enquête, ils en ont vendu quelques-unes et ça s'est arrêté là. Alors, vous voyez ? Même en copiant, ils ne sont pas capables. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Ben oui. Non, mais on en revient toujours au même processus. Hein. Vous êtes doué ou vous n'êtes pas doué. Enfin, ce n'est pas grave. Hein. Oh non, les chevilles, elles enflent pas. Ça, c'est sûr. Hein.
Il y a beaucoup de constructeurs.
Non, mais ça me fait sourire de voir tout ce que je vois hein, dans la nature qui tourne.
Il y a beaucoup de constructeurs dans le coin ?
Oh, il y en a beaucoup, pas tant que ça. Non, mais des gens qui construisaient, il y en a eu très peu. Hein, les gens achètent du matériel tout fait.
Mais même dans les années 60, 70
dans les années 60, c'est-à-dire aussi, tracteur en jambeur, il y avait combien 3-4 marques.
Oui, non, mais bon, c'est des marques. Les autres, ils vendaient les marques, mais qu'est-ce qu'ils construisaient en
définitive ? Les accessoires, il y en a quelques-uns qui font des accessoires, qui en font toujours d'ailleurs maintenant.
Un petit peu plus aujourd'hui, mais à cette époque-là, il n'y avait personne qui faisait. À part les charrues à vignes, il y avait quelques petits forgerons à gauche, à droite, qui faisaient des petites charrues à vignes.
Maintenant, il y en a qui font des accessoires.
Mais les trois quarts, non, ils achètent tout fait, ils vendent tout fait, voilà.
Et vous avez, quand est-ce que vous avez constaté que les gens arrêtaient de faire tout manuel pour commencer de manière plus généralisée?
C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que c'est que de faire de la vigne, mais quand vous faites tout manuel, non mais attendez, c'est parce que c'est là la différence, c'est que quand on sait ce qu'il en est, c'est que faire de la vigne avec que des outils manuels, mais vous y passez votre vie, vous n'avez pas de temps libre. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le matériel, le vigneron en définitive, je vais peut-être exagérer, mais il va travailler trois mois dans l'année, si vous voulez, pour faire sa vigne. Mais c'est tout. Est-ce que dans le temps, il fallait travailler toute l'année dans la vigne pour s'en sortir? Alors voilà la différence entre avant et aujourd'hui.
Mais quand est-ce que ça a changé?
Oh ben à partir du motoculteur.
Ici,
à partir du motoculteur, puis après le petit tracteur de rang.
Oui, mais 1960,
quoi.
Disons que c'est le tracteur en jambeur, vers 1960, hein, vers entre 1950-1960.
Les vignerons, ils ont commencé de respirer.
Mais tout le monde pouvait s'en acheter un dans les années 60?
Ah, ben tout le monde.
Dans
non,
les années
que,
60,
c'était pas la richesse.
Si, il y avait quand même, enfin tout le monde. Il y a le petit viticulteur, puis il y a le viticulteur qui s'est agrandi quand même un peu. Hein. Moi, j'ai connu, quand j'étais jeune fille, le viticulteur, par exemple, à Celles-sur-Ours, qui travaillait, qui allait travailler en usine, et qui le soir faisait sa vigne. Après, on a connu les enfants, ils ne faisaient plus que la vigne.
Voilà.
Après, les petits-enfants.
Ça allait mieux.
Et maintenant, ce sont les arrière-petits-enfants, d'ailleurs, qu'on ne connaît plus.
Et le village, comment il était quand vous étiez enfant ?
À Polizzo. Oh, Polizzo. Disons, quand j'étais enfant, il y avait du tabac à Polizzo. Ah oui, tabaculteurs. Il y avait beaucoup de tabaculteurs à Polizzo et puis dans les pays environnants. Pourquoi ? Parce que la vigne, ils faisaient leur petite vigne, mais ça ne donnait pas beaucoup. J'avais ma grand-mère, qui était veuve de guerre, qui faisait 50 heures de vigne, Et je me souviens une année, elle faisait faire certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire elle-même. Et une année, elle a fait juste la valeur de ses frais. Et pourtant,
C'est parce que
elle n'avait rien d'autre comme revenu, hein.
la différence, c'est qu'à cette époque-là, il
Cette
fallait déjà
époque-là,
traiter à dos. Ce n'était pas des
il y avait
appareils sur
traitement à dos.
tracteur pour traiter.
Il y
Donc,
avait.
pour traiter une vigne,
On prenait la binette,
le
hein.
client y mettait la
Tout
semaine au lieu de
était
traiter ça dans la
même.
journée.
Oui, oui,
Alors,
oui.
pendant ce temps-là, la maladie, elle s'installait où elle pouvait
Oh, puis
s'installer.
il y avait des gelées, beaucoup plus de gelées que maintenant hein, aussi.
Oui, il y avait
Il y
les
avait
gelées,
beaucoup
il y
de
avait
gelées.
tout ça, il y avait bon, plein
Oui,
de choses.
oui.
Et le vigneron.
Donc, si vous êtes allé un petit peu dans les vignes, vous, enfant?
Ah
Vous
oui, j'ai
avez.
même encore des photos, étant gamine, avec avec les raisins. J'ai taillé, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être une douzaine d'années. J'ai taillé, j'ai vendangé, oui, avec ma grand-mère.
Vous souvenez? Vous
J'ai
avez des
toujours été
souvenirs
dans le
précis?
vignoble.
Votre premier souvenir, la
Mon
première
premier
chose dont vous vous
souvenir.
souvenez?
Je me souviens d'une ancienne vigne où j'allais vendanger et qui malheureusement a été déclassée. Elle n'est plus champagne. Eh oui.
Il y a le
Oui,
voilà.
il y a eu des vignes, il y a eu des terres à déclasser, d'autres classées. Enfin, il y a eu des changements, mais malheureusement, sur trois terrains que ma grand-mère faisait, il y en a eu deux qui ont été déclassés. Enfin bon.
Bon, c'était que les anciens, ils n'ont pas su se défendre dans ce temps-là, parce que sur 160 hectares, ils en ont déclassé 100.
170.
Ça fait quand même beaucoup. Bon, alors voilà.
Ben, des cloches, oui.
Alors, ce terrain-là, il est toujours avec le soleil du matin
Non,
jusqu'au
c'est-à-dire,
soir.
ça s'est pas passé comme ça. Ils n'ont pas déclassé. Voilà.
Ah ben c'est un petit peu ça l'explication simple.
Alors, comment ça s'est passé?
Ben, disons qu'il y a eu. Bon, ben, de toute façon, il y a eu le phylloxéra. Il y a eu l'histoire des vignerons de 1911. Hein. Les vignerons étaient malheureux comme tout parce qu'ils vendaient leurs raisins quand même pour la Marne. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils allaient faire de leurs raisins, de leur vin? Ils étaient très malheureux à cette époque-là.
Mais vous,
Bon,
c'était fin des années 40, début des années
moi,
50.
c'était les années 50, hein, ça n'a plus rien à voir avec ça. Hein, oui. Et moi, 47, ben, c'était le début de la mécanisation. Oui. Je pense qu'à partir des années 60, le vignoble a bien marché, s'est bien reconstruit.
Oui, mais par rapport, vous parliez du déclassement de ce qu'avait votre grand-mère. C'était dans les années.
Non, c'est vers 1900, 1915. Mais ça a été déclassé. Ben non, c'est en 50. Ça a été déclassé, c'est pas les années 70. Je ne peux pas vous dire exactement.
Non, pas si vieux que
Oh,
ça.
si, il y a eu un changement. Il y a eu des changements. Disons que tout ce qui était mal exposé, par exemple exposé au nord, les terrains ont été déclassés. Ils ont reclassé d'autres terrains qui n'étaient pas vignes à l'époque, mais qui étaient bien exposés. Ils ont fait des changements à cette époque-là.
Et vos parents ont continué à exploiter
Ma grand-mère a pris sa retraite à cette époque-là, de toute façon. Et comme mes parents, ils avaient une petite vigne qui servait d'expérience pour le matériel, qu'ils ont laissé tomber à cette époque-là pour faire justement le matériel, quoi. Pour
Ils ont
faire les
laissé tomber, ça veut
constructions.
dire quoi?
La vigne, je
Bah,
ne
ils
sais
n'avaient
pas,
pas beaucoup de surface
il n'y avait pas
aussi.
beaucoup de surface, hein, il y avait juste une
Et
petite
puis
vigne
bon,
qui
ce
servait
n'était pas dans
d'expérience.
leurs idées à
Oui,
l'époque.
oui, oui. Et puis non, ils n'étaient pas viticulteurs. Bon, mon père, lui, c'était la mécanique qui l'intéressait. Il a fait la mécanique.
Et qu'est-ce qu'ils en ont fait alors?
Oh, bah, cette petite vigne, je crois qu'il y a eu un échange de faits avec une autre personne. Mais alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait de ma grand-mère? J'ai encore des terrains vignes qui ont été loués à des viticulteurs. Mais je vous dirais que maintenant, j'ai ma fille et ma belle-fille qui ont fait des formations et qui veulent refaire la vigne. Alors,
Voilà.
les terrains, on a eu l'occasion de reprendre des terrains. Mais pour l'instant, elles ont chacune 30 hectares de vigne, c'est pas grand-chose, mais elles voudraient bien s'agrandir. Ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Et ça leur plaît. J'ai ma fille qui va
Oui.
travailler la vigne à la main. Ça lui plaît vraiment. Le métier lui plaît. On retourne dans la viticulture.
On va retourner à la terre de plus en plus.
Vous savez faire pour aider.
Ah oui, bien sûr.
Pour aider. Actuellement, moi, pour aider, je garde les petits-enfants. Hein.
Oui, c'est déjà bien, il y en a six.
Il y en a six, il y a du travail, il y a de quoi s'occuper.
Je parlais pour la vigne.
Ah, pour la vigne.
Ah, moi, je m'en occupe pour le matériel.
Je ne peux plus y aller dans la vigne.
Je fais des innovations.
Oui, continue.
Entre-temps, quoi.
Alors, il va y avoir peut-être des reclassements, c'est ça?
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ce qui va se passer. Je ne sais pas. Actuellement, je crois qu'il y a des problèmes avec les droits de plantation, d'ailleurs. Alors, un jeune qui a fait une formation, qui commence à faire de la vigne, qui a du terrain et qui n'a pas de droit de plantation, il est arrêté. Espérons que ça s'arrangera.
Et donc, vous me parliez du village quand vous étiez enfant.
Mm-hmm.
Donc, est-ce qu'il était prospère? Est-ce qu'il était...
Non, c'était pas du tout la même vie que maintenant. Je ne sais pas, quand j'étais enfant, bon, des années 45-47, il ouais, faut pas oublier que c'était aussi tout après la guerre. Hein, et, bon, la guerre, ça a été terrible pour tout le monde. Et puis après, beaucoup de personnes allaient travailler, des personnes du pays qui allaient travailler sur Bar-sur-Seine, allaient travailler, il y avait des scieries. Il y avait la papeterie de Navarre, bon, le chemin de fer, le Polizot qui marchait bien. Parce qu'il ne faut pas oublier la gare de Polizot, hein, la gare de Polizot qui se trouve au centre de plusieurs vallées, si on veut. Hein, et qui servait déjà pour emmener les tonneaux, pour emmener le vin.
Vous avez pris le train?
Beaucoup compté. Ah, j'ai pris le train, j'ai même pris le petit train de Quinfin à Rissé. Je l'ai pris une fois. Je m'en souviens. Oui, oui. Et j'ai pris le train pour aller à l'école à Troyes, oui, oui.
Vous avez vu l'école à Troyes?
Oui.
Et vous saviez ce que vous vouliez faire? Vous alliez à l'école? Ou c'était déjà tracé?
Non, pas spécialement, non, pas du tout. J'étais heureuse à 16 ans de rentrer à la maison, de rester avec papa et maman. Bon, je faisais la secrétaire, ça m'allait très bien.
Voilà. Et le développement, parce que les vignes, le champagne a connu quand même une certaine croissance. Hein.
Oui.
Est-ce que ça a profité au village?
Ça, oui, je pense que ça a profité au village, ça a profité à toute la région, ça a profité à tout le monde. Hein.
Mais comment ça s'est vu dans le village?
Par les pierres apparentes, sur les maisons.
pas spécialement.
On voyait que
le village, je
veux
dire
quoi,
que Polizot, il n'y a pas tellement de viticulteurs à Polizot, je ne sais pas combien ils sont, mais en fait, ce n'est pas très nombreux. Hein. Polizot, c'est pas très nombreux, mais avec les villages voisins, on voit quand même si les propriétés qui s'embellissent, hein, qui s'agrandissent,
oui,
etc. La vie plus facile.
Oui. Mais est-ce que l'entreprise a eu le même développement, la même croissance?
Quand on s'est marié, on aurait pu développer plus, je crois. On a eu jusqu'à 17 employés. Ça fait quand même quelque chose. Hein? On aurait peut-être pu développer plus. Enfin, on a développé en construisant, parce que c'était toujours dans les anciens bâtiments là, de l'usine hydraulique qu'on fabriquait. Et on a entendu des réflexions de viticulteurs qui trouvaient qu'on n'était pas assez représentatif. Et puis, comme nous avions un fils... avec l'espoir qu'il reprendrait la suite, et nous avons construit des bâtiments neufs en 1997, sur la Bellevue, là, sur la... Hein. Mais le fils, lui, sa passion, c'était la voiture, l'automobile, il n'y avait rien à faire du tracteur enjambeur. Et il n'a pas voulu continuer. Il continue les voitures.
Voilà. Ah oui, ça a fini comme ça.
Alors, pour après, il avait, pour prendre la retraite, il fallait vendre le fonds de commerce parce qu'il y avait quand même une belle entreprise. Vendre le fonds de commerce, c'était pas évident. On a cherché plusieurs années et finalement, on a vendu au chef d'atelier qui s'est associé avec le représentant. Et maintenant, c'est le chef d'atelier avec sa femme qui prennent la suite.
Donc ils sont dans les...
Qui sont à Bellevue, là. Ouais.
Oui, au carrefour à
Donc, ils sont
gauche.
au carrefour.
Avant d'aller sur la nationale, c'est à gauche, là.
Donc, l'entreprise n'est pas complètement morte, même si elle ne s'appelle plus Atelier Giraud.
Oui, on avait toujours laissé appellation Atelier Giraud. Alors quand on a quitté, pour moi, c'était moins difficile parce que c'était pas mon nom.
Non,
Enfin, je
mais
vous dis
là,
ça en plaisantant.
tout le monde était d'accord pour changer quand même.
Oui, ben, enfin, voilà. Voilà comment ça s'est terminé.
Oui, et maintenant c'est la retraite. La retraite bien
Oui,
occupée,
ben, je l'ai
on n'est
pris à
jamais autant
60,
occupé que quand on est en
je l'ai
retraite.
pris à 69 ans, ma retraite.
Il l'a pris
Alors, quand
69.
j'entends ceux qui se plaignent que ah, c'est la catastrophe, ah, si on n'a pas, s'ils l'ont pas 60 ans, pensez un peu à la misère. Non, mais ils ne veulent plus travailler, alors ils ont.
Et vous, il a fallu vous former au métier de la vigne ou pas pour pouvoir
Oui, bah
exercer?
après, ça a commencé de m'intéresser.
Et
Quand
quand
je
vous
suis
avez
arrivé,
appris?
bah, j'ai regardé.
Mmh.
Oui, en se tournant les pouces, oui, pendant qu'on regarde, c'est vrai. Non, mais voilà, et puis bon, bah, c'est tout, je me suis mis dans le bain du métier, et puis bon.
Ben, presque tout de suite, puisque mon
Oh,
père a
bah,
pris
j'ai
sa retraite
pas.
en 72.
Ah oui, bah, non, mais de toute
Alors,
façon, oui.
on s'est marié en 69, il a eu 3 ans pour se mettre dans le bain.
Les foires, les motoculteurs, les choses comme ça, bon, et puis j'ai démarré avec ça, si vous voulez. Puis un petit peu les tracteurs en même temps, et puis bon, ben, ça y est.
Alors, quand on est passionné de mécanique, de toute façon.
Ah, j'en faisais des choses dans le temps, dans le temps des vieilles voitures. Les vieilles voitures qui démarraient pas l'hiver. Parce que où j'habitais, il y avait la route principale comme Bar-sur-Seine, et puis le vent du nord, il prenait en enfilade la rue principale de la ville, quoi, où il y avait
La sœur.
2000
La
habitants,
sœur,
à Sœur. SEU, 2 RE.
oui.
Hein, voilà.
SEU.
Alors. Il faisait froid le matin, le boucher, l'épicier, le boulanger. Il y avait quoi? Quand il faisait trop froid, parce qu'il faisait froid dans ces temps-là, il faisait des moins 15, moins
Plus
20
que
la nuit.
maintenant.
Et il ne pouvait pas démarrer le matin. Alors, moi, quand je suis arrivé, enfin, bon, je me suis intéressé à ça aussi, puisque j'étais jeune à l'époque. Hein. Et puis, mon principe, parce que dans ce temps-là, c'était, on mettait de l'huile épaisse dans les boîtes et puis dans les ponts. Moi, qu'est-ce que j'avais acheté de l'huile 10 au lieu de la 90. La fluide, la plus fluide de l'époque. J'en mettais dans le pont, j'en mettais dans la boîte et dans le moteur. Et après, mes voitures, elles démarraient le matin. Alors, mon épicier ou le boulanger, il prenait les autres en remorque pour les mettre en route le matin. Voilà. Voilà comment que ça se faisait. Et puis, avec mes voitures, à moi qui démarrais. Ben oui. Ça a commencé tôt, vous voyez.
Vous gardiez vos trucs pour vous.
Bah, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais.
Non, non, non,
C'est pas
tu
que je les
habitais quand
gardais, mais
même.
dans le fond, écoutez, ouais, non, mais. Parce qu'ils ne nous faisaient pas de cadeaux, les autres non plus. Bon, ben, moi, je leur disais rien, je faisais ce qu'il fallait, ça
Ils
suffisait.
avaient qu'à venir chez lui.
Mais non, mais je faisais ce qu'il fallait, ça suffisait, quoi, bon. Puis moi, c'était automatique. Le client, il venait vidanger, moi, je lui mettais l'huile qui convenait, je lui demandais pas son avis, hein. Je faisais ce qu'il fallait pour que ça marche, voilà, c'est tout. Ce qui m'a toujours intéressé, il fallait que ça marche. C'est pas le reste, c'est. Voilà.
Et dans vos relations de travail avec les vignerons, ça a toujours été la même chose?
Ben, ça a été un petit peu pareil au démarrage. Alors, on en revient au moteur qui démarrait pas l'hiver. C'était des moteurs Indénor, diesel. Et puis l'hiver, ouin, 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 ouin. Et puis, on n'entendait pas le moteur démarrer. Moi, j'avais toujours ma fluidité d'huile d'hiver que je mettais systématiquement et tous les tracteurs démarraient. Oh, puis plein d'autres choses. Hein. J'améliorais les voitures dans ce temps-là, les frégates, les tout ça. J'avais de meilleures reprises en quatrième qu'en troisième dans le temps. Une fois que j'avais rectifié la mécanique, je la modifiais à ma façon, sans changer aucune pièce. Je marchais aussi bien que ceux qui achetaient des systèmes, comment, Gordini pour équiper leur moteur. Moi, non, moi avec les pièces du moteur d'origine, je marchais aussi bien que l'équipe Gordini. Ouais. Voilà. Enfin, voilà l'essentiel.